Universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui avec Morgane Diriac et Chérubin Dorcil en direct de Washington. Heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous quotidien de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité. Au Nigeria, le mois de décembre commence sous le signe de la violence. Deux capitales régionales du Nord-Est ont été attaquées ce lundi.
Objectif zéro, thème de la journée internationale de lutte contre le sida, mais le pari demeure difficile en Afrique subsaharienne, où plus d'un million et demi d'adolescents vivaient avec le VIH l'an dernier.
Forum économique de la francophonie à Dakar et droits humains et climat politique au Burundi, le point avec un membre de la société civile.
Nous sommes dans une situation où le pouvoir a décidé de restreindre l'espace des libertés publiques.
Pacifique, Ninina Hazoué, responsable du Fokodé à Bujumbura.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, Maïdougouri et Damaturu, deux capitales dans le nord-est du pays, ont été la cible d'attaques attribuées à Boko Haram. Idriss Fall.
À Maïdougouri, capitale de l'état de Borno et fief de Boko Haram, le double attentat suicide dans le Monday Market a été perpétré par deux femmes kamikazes. Selon l'AFP, il y a eu 10 morts. Ce même marché a déjà été la cible d'un double attentat qui avait fait au moins 45 morts la semaine dernière. À Damaturu, capitale de l'état voisin de Yobe, des détonations ont réveillé tôt ce matin les habitants qui ont dû fuir en brousse. Des hommes armés ont incendié les locaux de la police. Pourtant, Damaturu abrite une importante base militaire. Selon le général Chris Olukolade, porte-parole de l'armée, des soldats appuyés par des avions ont engagé une riposte. De violents combats ont eu lieu à proximité d'une prison où sont détenus des membres présumés du groupe djihadiste.
Au Burkina Faso, l'extradition du président déchu Blaise Compaoré n'est pas une priorité. C'est ce qu'a déclaré Michel Cafando, le président de la transition, sur la chaîne de télévision France 24. Il faut prendre le temps de comprendre beaucoup de choses, a expliqué M. Cafando. Ce n'est pas que je n'y sois pas favorable. En fait, ce n'est pas notre priorité à l'heure actuelle, a-t-il insisté. Le premier ministre intérimaire, le lieutenant-colonel Isaac Zida avait pourtant déclaré vendredi que le Burkina allait demander au Maroc l'extradition de Blaise Compaoré si une plainte était déposée à son encontre.
Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, a quitté lundi sa résidence surveillée d'Odienné pour rejoindre Abidjan, c'est ce que dit l'AFP. Accusée d'atteinte à la sûreté de l'État durant la crise post-électorale de 2010-2011, son procès prévu pour le 22 octobre avait été reporté sine die. Son avocat contacté par l'AFP affirme n'avoir reçu aucune information de la justice sur son transfert. Madame Gbagbo est également accusée de crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale.
Et justement, en parlant de ces pays, Thomas Lubanga, ancien chef rebelle congolais, a été reconnu coupable par la chambre d'appel à La Haye. La justice internationale lui reproche d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo en 2002-2003. Sa peine de 14 ans de prison a donc été confirmée.
Enregistrement en cours des électeurs au Burundi. Le ministre burundais de l'Intérieur reconnaît pas mal d'irrégularités dont certaines relèvent de l'administration. Il a notamment évoqué la distribution de la carte nationale d'identité. Des critiques du processus électoral et de la situation des droits humains dans le pays se disent menacées. Nous y reviendrons plus tard dans cette édition.
L'Organisation mondiale de la santé a indiqué ce lundi que le Libéria et la Guinée ont réussi, tels qu'espérés, à isoler 70% des personnes infectées par le virus Ebola et à enterrer en toute sécurité 70% des victimes avant le 1er décembre. Et Jacques Aristide.
Des progrès certes, mais la guerre contre Ebola est très loin d'être gagnée d'après les différents acteurs engagés dans la lutte contre l'épidémie. Pour l'ONG Médecins sans frontières, le virus fait encore rage en Sierra Leone, qui, d'après les humanitaires, a longtemps refusé de voir la réalité de la maladie. À Genève, ce lundi, le docteur Bruce Aylward de l'OMS faisait le point sur le plan ambitieux mis en avant il y a 2 mois par l'agence onusienne pour freiner l'épidémie. Elle avait fixé comme objectif au 1er décembre de prendre en charge et d'isoler 70% des malades et de sécuriser 80% des enterrements, les dépouilles étant très contagieuses. Selon le docteur Aylward, ce programme a démontré qu'il était possible de combler l'écart énorme entre l'ampleur de la maladie et la capacité de réponse. Le médecin a indiqué que ces mêmes objectifs ont probablement été atteints dans l'ouest de la Sierra Leone et qu'il s'attendait à ce que la situation s'améliore à travers le pays au cours des prochaines semaines. Le docteur Aylward a toutefois prévenu que parvenir à atteindre ces objectifs n'entraîne pas automatiquement la disparition des nouvelles infections et des pratiques funéraires dangereuses. Malgré les lueurs d'espoir, Ebola a tué près de 7000 personnes à ce jour, selon le dernier bilan de l'OMS, en immense majorité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le sida, le secrétaire général de l'ONU a loué les progrès réalisés au niveau mondial. Une amélioration qu'il juge toutefois fragile. Nathalie Barge.
Ban Ki-moon a souligné l'importance de combler les lacunes dans l'accès aux traitements, en particulier pour les enfants et les jeunes femmes. Il a exhorté les dirigeants du monde entier à faire ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'éradiquer le sida d'ici 2030. Dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec le VIH, le rétrovirus responsable du sida. Selon l'ONU, 19 millions d'entre elles ignorent être infectées. Plus de 70% de la population infectée par le VIH est en Afrique subsaharienne, mais les nouveaux cas ont diminué d'un tiers depuis 2005. On observe à l'inverse une augmentation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale. Le président américain a dit que les États-Unis sont toujours déterminés à mener la lutte contre le VIH-SIDA. Dans un communiqué pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, Barack Obama a souligné qu'environ 7 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement antirétroviral grâce à l'aide américaine.
Et l'Égypte ne va pas revenir en arrière, c'est ce qu'assure le président Abdel Fattah al-Sissi suite à l'acquittement de l'ex-chef de l'État Hosni Moubarak, jugé pour complicité de meurtre.
Un gendarme tunisien a été décapité. Il avait été enlevé hier soir dans la région du Kef, dans le nord-ouest du pays, par des hommes armés alors qu'il n'était pas en service. Plus au sud, au Mont Samama, le long de la frontière, un militaire a été tué aujourd'hui dans l'explosion d'une mine, indique l'agence France-Presse, citant le ministère tunisien de la Défense.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au moins 16 gardes frontières irakiens sont morts aujourd'hui dans une attaque de l'État islamique dans l'extrême ouest de la province d'Anbar, non loin de la Syrie. L'attaque a également fait 4 blessés. Malgré tout, les autorités irakiennes affirment contrôler Al-Walid, théâtre de l'assaut des militants. Par ailleurs, la mission d'assistance de l'ONU en Irak rapporte la mort de plus de 1200 Irakiens, dont 300 combattants pro-gouvernementaux durant le mois de novembre.
Faute de moyens financiers, le Programme alimentaire mondial, PAM, a suspendu son aide à travers des bons d'achat à 1 700 000 réfugiés syriens. Les précisions de Michel Joseph.
L'agence onusienne a annoncé avoir été contrainte par manque de moyens de suspendre son aide aux réfugiés syriens en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Irak et en Égypte. Ceux-ci pouvaient, grâce à des bons fournis par le PAM, acheter de la nourriture sur place. Malgré plusieurs appels pour obtenir des fonds, les donateurs n'ont pas mis la main à la poche. Pour Etherine Cousin, directrice du PAM, cette suspension de l'aide va mettre en péril la santé et la sécurité des réfugiés et pourrait même provoquer des tensions dans les pays d'accueil. Depuis le début de la crise syrienne en 2011, le PAM a assuré une aide alimentaire à des millions de personnes déplacées et à 1,7 million de réfugiés syriens dans les pays limitrophes.
Le chef du gouvernement local de Hong Kong a affirmé ce lundi que la poursuite des manifestations du mouvement pro-démocratie était devenue intolérable. La police du territoire, passée sous tutelle chinoise, a repoussé les militants pro-démocratie qui tentaient dans la nuit d'encercler le siège du pouvoir, provoquant des heurts parmi les plus sérieux depuis le 28 septembre. Trois leaders étudiants du mouvement pro-démocratie ont annoncé qu'ils entamaient une grève de la faim. On craint de nouvelles opérations policières à Hong Kong.
À Lima, la capitale du Pérou, s'est ouverte la 20e réunion des Nations Unies sur le climat. Près de 12 000 délégués venus du monde entier tenteront pendant 2 semaines de trouver un accord avant la grande conférence sur le climat prévue fin 2015 à Paris.
Et ici aux États-Unis, la saison des achats de fin d'année a débuté de façon plutôt timide jeudi, mais les commerçants misent sur ce que l'on appelle le Cyber Monday, le lundi qui suit la fête de Thanksgiving, pour arrondir un peu les angles. Selon la Fédération nationale des détaillants, plus de 133 millions d'Américains ont fait des emplettes, soit en personne, soit par Internet, depuis jeudi. C'est une baisse de plus de 5% par rapport à 2013. Voilà pour le journal. Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour.
C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le sida avec pour thème cette année Objectif zéro. Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Selon l'ONU-SIDA, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, 1,5 million de personnes à travers le monde sont encore mortes de maladies liées au SIDA en 2013. Et durant la même période, on estimait qu'environ 35 millions de personnes à travers le monde vivaient avec le VIH. Camille Grosdidier.
Si le monde n'accélère pas rapidement la riposte dans les 5 prochaines années, l'épidémie de VIH-SIDA pourrait redémarrer et le nombre de nouvelles infections à VIH atteindre des niveaux encore plus élevés qu'aujourd'hui, avertit ONU-SIDA. Il s'agit donc de renforcer rapidement les interventions pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. En adoptant une approche accélérée, près de 28 millions de nouvelles infections à VIH et 21 millions de décès dus au SIDA pourraient être évités d'ici à 2030, estime le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. Mais si l'ONU-SIDA se veut résolument optimiste, Médecins sans frontières est plus prudent. L'ONG évoque de tristes réalités sur le terrain, des réalités auxquelles elle est confrontée quotidiennement, notamment en Afrique subsaharienne, où 71% des séropositifs vivent aujourd'hui. On écoute le docteur Eric Goumard, spécialiste du VIH-SIDA à MSF.
Clairement, le message de l'ONU-SIDA que nous supportons, bien sûr, c'est « scaling up ». Il faut passer à la vitesse supérieure et ce sont des années clés, disent-ils, pour faire la différence et donc supprimer cette épidémie ou au contraire la voir rebondir. Leur message, clairement, c'est qu'il faut plus que doubler, il faut tripler en fait le nombre de gens que l'on mettra sous traitement d'ici 2020. La réalité sur le terrain, celle des cliniciens comme nous à Médecins sans frontières, c'est qu'on est dans des cliniques qui sont déjà débordées. Pour vous donner un exemple, une petite clinique de soins de santé primaire dans le township de Kayucha, il y en a une qui a 8000 patients sous ARV en traitement. Donc 8000 patients vivant avec le sida en traitement. Pour une petite clinique, ils ne peuvent pas faire que du sida, ils doivent faire aussi les urgences, les accouchements, soigner les différentes maladies communes, et donc tout ça avec un staff restreint. Donc la volonté de notre communiqué, c'est de dire on pourrait éventuellement passer à une vitesse supérieure, mais il faut alors changer complètement nos modalités pour délivrer les soins.
Le docteur Eric Goumard, spécialiste du VIH-SIDA à MSF, il était joint en Afrique du Sud. Pour MSF, il est urgent de repenser la façon dont les malades sont soignés et de soutenir des stratégies communautaires qui ont déjà fait leurs preuves, mais qui malheureusement ne sont pas toujours financées.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur la pandémie du sida qui continue notamment d'affecter l'Afrique subsaharienne. Pour beaucoup d'ONG, l'urgence de la crise Ebola ne doit pas reléguer la lutte contre le sida. Vos commentaires sur la page Facebook de la VOA ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h PU sur VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 3 présumés violeurs d'enfants à Kavumu, dans les territoires de Kabare, au sud Kivu, sont entre les mains de la justice. Les viols de mineurs sont monnaie courante dans cette partie de la province depuis le début de l'année. Une trentaine de cas sont déjà signalés, Gali.
Et la société civile demande aux autorités judiciaires de poursuivre les enquêtes et de ne pas être complaisante avec ces dossiers. Toutefois, la conseillère du chef de l'État congolais en matière de violences sexuelles note une évolution positive dans la répression des crimes à caractère sexuel. Un reportage de notre correspondante à Bukavu, Jolie Kamuntu.
Le ministre provincial de la Justice au Sud Kivu déclare que le gouvernement met tout en œuvre pour que ce phénomène des viols des filles mineures soit éradiqué complètement. Gisèle Baligamire.
C'est une préoccupation primordiale du gouvernement. Et c'est pour cela que nous avons mobilisé tous nos moyens, tout notre temps à la recherche de ces auteurs. Nous avons encore demandé à la population de Kavu de pouvoir collaborer toujours dans la dénonciation de toute personne suspecte. Nous sommes en train de mener des enquêtes stratégique que nous ne pouvons pas dévoiler.
La société civile noyau de Kavumu se dit être contente de cette arrestation, mais le besoin des victimes de ces atrocités est de voir les auteurs jugés et condamnés sur place à Kavumu. Maître Ephraim, président du noyau de la société civile de Kavumu.
J'en étais très très fier que pour une fois, les gouvernements provinciaux se soient impliqués pour qu'on mette la main sur le présumé violeur. Mais notre réaction est aussi douloureuse parce qu'en principe, nous qui sommes victimes de ces actes, nous, je cite la population de Kavumu, sommes en besoin de voir qui sont ces gens-là. Nous voulons que l'instruction préjuridictionnelle soit faite à Kavumu, que l'instruction juridictionnelle soit faite à Kavumu. Les gouvernements provinciaux ne manquent pas les moyens pour que ces gens soient jugés sur place. Nous voulons obtenir des chambres foraines dans lesquelles ces gens-là sont jugés pour que la population elle-même puisse vivre en réalité les auteurs de viols de nos petites filles de 2 ans, de 3 ans, et que la loi leur soit appliquée.
Pour les victimes, l'État doit renforcer la sécurité à Kavumu. L'une d'elles rencontre.
Nous sommes contentes, mais tous les violeurs doivent être punis et emprisonnés. Il faut aussi que l'État nous sécurise car nous avons peur.
La justice n'est plus indifférente et les magistrats ne blaguent plus avec des questions de violence, affirme Janine Mabunda, la conseillère spéciale du chef de l'État, Joseph Kabila, en matière de violence sexuelle. Pourtant, Kinshasa semble ne pas mettre au premier plan la question des violences, note le président de la société civile de Kavumu. Mais un plan de plaidoyer est mis en place pour que la voix des victimes soit portée plus haut. Maître Ephraim.
La politique semble ne pas du tout être très très favorable quant à son implication effective dans les événements d'insécurité à travers la province ou à travers les pays. Nous pensons pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile. Nous voulons approcher les autorités judiciaires pour que nous puissions leur dire, écoutez, nous ne nous fatiguerons jamais aussi longtemps que les derniers des auteurs des viols sur nos petites filles ne soient jugés et punis conformément à la loi.
Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, Edouard Nduwimana, a reconnu lundi et aujourd'hui que pas mal d'irrégularités, dont certaines relèvent de l'administration, entachent l'enregistrement des électeurs à quelques mois de la présidentielle. Pareille situation avait déjà été dénoncée par des organisations de la société civile burundaise qui mettent en doute la volonté du pouvoir d'organiser un scrutin crédible.
Pacifique Ninina Hazoué du FOCODE, Forum pour la conscience et le développement, nous dit que ses récentes prises de position sur le climat politique et la situation des droits humains dans le pays lui ont valu des menaces directes la semaine dernière. Nous l'avons joint à Bujumbura.
Ça fait un beau bout de temps que je reçois des menaces de toutes sortes. Il y a 2 semaines, une pétition a été lancée sur Internet et puis a été fait signer au pays. Une pétition qui me charge de crimes graves, crimes d'assassinat qui ont eu lieu notamment à l'université et des crimes qui ont été commis avant que je ne sois même inscrit à l'université du Burundi et avant même que mon organisation existe. Ils ont dit que c'est le FOCODE qui avait organisé de tels massacres. Mais
cette pétition a été signée par qui?
Par une personne inconnue, mais j'ai entendu jeudi soir un conseiller du président de la République qui disait qu'il connaissait l'auteur de cette pétition et qui défendait le contenu de cette pétition.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on profère des menaces contre des défenseurs de droits humains au Burundi.
Déjà, sur moi-même, j'avais été menacé en 2009, en novembre 2009, à 6 mois des élections de 2010. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore une fois à 6 mois des élections de 2015 et l'histoire semble se répéter pour moi. Alors, je disais, je ne suis pas le seul. Il y a quelques mois, Pierre Claver Mbonima, qui est la figure la plus emblématique des défenseurs des droits de l'homme au Burundi, était aussi en prison pour avoir dénoncé les entraînements paramilitaires de jeunes Imbonerakure, la milice du parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Il y a d'autres comme le bâtonnier du Burundi, Isidore Rufyikiri, qui a été récemment radié de l'ordre des avocats du Burundi, tout comme pas mal d'autres défenseurs des droits de l'homme sont aujourd'hui en danger.
Alors, les menaces dont vous dites faire l'objet seraient-elles en rapport avec vos récentes déclarations en Europe?
Bien sûr. D'abord, j'ai dirigé tout récemment une campagne vendredi vert pour la libération de Pierre Claver Mbonimpa. Tout récemment, j'étais encore une fois au Parlement européen pour un atelier sur les enjeux électoraux et sécuritaires de la région de Grand Lac. Je me suis exprimé contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Après, j'ai été à Genève, où le Burundi était évalué par le Comité des Nations Unies contre la torture. À ce moment-là aussi, j'ai fait le plaidoyer sur les situations des droits de l'homme au Burundi. Après, j'ai fait des interviews à une télévision genevoise et cela a été mal perçu par les autorités burundaises. C'est à ce moment qu'ils ont lancé la pétition qui a été suivie par une déclaration du ministre de l'Intérieur qui me met en garde moi-même ainsi que mon organisation et cela a été suivi par après par différentes autres formes de menaces.
Allez-vous rester dans le pays?
5 ans que je suis menacé, je suis toujours resté ici. Je m'inquiète seulement pour ma famille parce que moi, en faisant le choix de la défense des droits de l'homme, je connaissais les dangers, les risques que j'encours en le faisant.
Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec Pacifique Ninina Hazwe du Forum pour la conscience et le développement au Burundi sur notre site voaafrique.com.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Alors, Morgane, c'est l'heure du sport.
Oui, et avec Timothée Donongmaï.
Alors, salut Timothée.
Salut Morgane, salut Chérubin.
Et parlons des finalistes du Ballon d'Or 2014, ils sont connus?
Eh oui, Gabi, beaucoup de pronostiqueurs misaient sur ce qu'on appelle le duo habituel, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, auquel s'ajouterait un joueur de l'équipe allemande championne du monde en titre. Eh bien, c'est chose faite puisque c'est le gardien de but allemand Manuel Neuer qui s'est joint au groupe pour le trophée qui sera remis le 12 janvier à Zurich. Après avoir gagné en 2008, Cristiano Ronaldo est revenu à la charge en 2013 pour empêcher Messi de gagner un 5e titre consécutif. Compétition tout aussi âpre pour le Ballon d'Or féminin, l'Allemande Nadine Kessler figure sur la shortlist. Meilleure joueuse européenne 2013-2014, elle a assuré avec brio la qualification des Allemandes au Mondial féminin 2015 qui se jouera au Canada. Kessler devra cependant compter avec la Brésilienne Marta et l'Américaine Abby Wambach.
Au plan africain, c'est ce week-end que le vainqueur de la Coupe de la Confédération sera connu.
Et le COE Sport de Côte d'Ivoire ira défier à cet effet samedi Al Ahly du Caire sur les berges du Nil après s'être imposé sur sa pelouse samedi dernier sur le score de 2-1. Al Ahly compte 18 titres africains, mais le club ivoirien n'ira pas en Égypte en victime expiatoire. Avec ce score de 2-1 à domicile, le COE Sport s'est donné une marge de manœuvre qui laisse tout de même entrevoir un match retour difficile en terre égyptienne. Écoutons à ce sujet Rigo Gervais, entraîneur de COE Sport.
Alors, nous, on pense qu'on est assez armés. Je pense que vous le découvrez. Nous, on est habitués à cette ambiance-là. La chenille dans le piment arrive à vivre. Je pense qu'on est habitués. On a vu ça au Nigeria. Voilà, on a vu ça dernièrement avec Dolizy. Et je pense qu'on est habitués. On a cette peau dure là pour aller chercher ce résultat-là qui est vraiment important pour toute la Côte d'Ivoire.
Rigo Gervais, entraîneur de COE Sport.
Et au Cameroun, Coton Sport a remporté le championnat issu de la 38e et dernière journée hier.
Et oui, c'est donc le club basé à Garoua dans le nord du Cameroun qui a remporté ce championnat. Il a laminé Cosmos de Bafia 3-0 pour terminer la saison avec 75 points. Devant Cosmos, 66 points et Unisport, 65 points. Une bonne saison pour Coton Sport qui a également remporté la Coupe du Cameroun.
Ici aux États-Unis, Timothée, l'ancien international français Thierry Henry réfléchit à son avenir après l'élimination de son club, les Red Bulls de New York, en demi-finale de la Major League Soccer.
battu à domicile 2-1 à l'aller par le New England Revolution. Le club new-yorkais est allé arracher un nul au retour samedi 2-2, insuffisant pour la suite de la compétition. Avec l'expiration de son contrat, Thierry Henry, qui est arrivé à New York en 2010, n'a pas dit ce qu'il compte faire, mais il n'entend pas rejouer avec New York.
De toute façon, il n'a pas l'âge pour faire la fine bouche, Tim. Quelques résultats du championnat noir américain de basketball professionnel.
Golden State est allé gagner à Détroit 104-93, 9e victoire consécutive pour le club californien. Memphis a remporté sa 15e victoire de la saison en allant s'imposer à Sacramento 97-85. Et les Lakers de Los Angeles ont battu après prolongation Toronto 129-122. Gabi, à cette occasion, Kobe Bryant des Lakers est devenu le tout premier joueur de la NBA à accumuler plus de 3000 points et plus de 6000 passes décisives. Boston a été tenu en échec sur son parquet par San Antonio 111-89. Même chose pour Brooklyn, défait à domicile par les Bulls de Chicago 102-84.
Allez les Spurs. Merci Timothée Donagmaï.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Salut Gabi.
Yeah. Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut? Donnons un chaos sida.
À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida, World AIDS Day, qui est une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida, nous allons écouter la chanson « Donnons un chaos au sida », réalisée grâce à un financement du PEPFAR, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le VIH-sida, par le biais de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, avec un collectif des jeunes artistes ivoiriens chantant en français et en langue locale, et coordonné par le rappeur congolais Djack Bounia. Voilà Morgane, c'était Donnons un chaos au sida, une chanson réalisée par plusieurs artistes ivoiriens et le rappeur congolais Djack Bounia.
Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie Morgane.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Merci de nous avoir suivis. C'était Lionel Gaïma, la mise en onde.
Et Bill Barber à la console technique.
Je remercie à toute la rédaction, au micro Morgane Guiriec
et chez Robin Orsini.